Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Quand l'Europe regarde au-delà de ses frontières, alors que se termine le sommet sur l'Europe et les Balkans et que s'ouvre celui sur l'Afrique et la France, quelle place l'UE entend-elle jouer dans le monde, soucieuse de s'affirmer face à une rivalité Amérique-Chine qui veut prendre toute la place? Et on commencera ce vaste périple aux portes de l'Europe, dans les Balkans occidentaux. L'UE ne leur a fait aucune promesse quant à leur intégration future. Certains attendent pourtant dans l'antichambre de l'Europe depuis près de 20 ans, et la frustration est bien là. Mais Bruxelles entend toujours les accompagner sur la voie de la croissance avec une aide économique de 30 milliards sur 7 ans. En Bosnie-Herzégovine, la jeunesse veut encore croire à l'Europe. Il faut dire que la classe politique locale qui attise les divisions communautaires ne les fait pas rêver. Reportage à Sarajevo de Louis Seyé.
Moi, j'ai une image positive de l'Union européenne. En fait, on fait vraiment tout pour être comme les autres pays d'Europe. Mais je pense qu'on en est encore vraiment, vraiment loin.
Comme Ismet, c'est vers l'Europe que la plupart des jeunes de Sarajevo tournent leur regard. À 18 ans, cet étudiant en droit est persuadé que son pays a tout à gagner en adhérant à l'Union européenne.
J'aimerais vraiment que la Bosnie devienne membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Je pense que ça pourra élargir notre horizon. On pourrait avoir une meilleure éducation, de meilleurs emplois, de meilleurs salaires. Mais voilà, on est là.
What can I say?
Candidat potentiel depuis 2003, la Bosnie-Herzégovine a officiellement déposé sa candidature à l'UE en 2016. Beaucoup de Bosniens voient dans cette adhésion encore très lointaine une solution pour tourner la page des tensions communautaires qui divisent le pays depuis presque 30 ans, depuis la fin de la guerre. C'est ce qu'espère Esmeralda, une jeune maman de 32 ans.
Ce serait vraiment mieux d'être membre de l'Union européenne, parce qu'on a beaucoup de problèmes à résoudre ici. Et ça, on réglera une bonne partie si on intègre cette Union européenne. Mais le fait qu'on attende depuis 20 ans déjà, ça en dit long. Tant qu'on reste les uns contre les autres, là un Bosniaque, ici un Croate, là un Serbe, on n'ira jamais dans l'Union européenne. On doit être unis, on doit penser à nos enfants. Nous ne devons pas nous détester. Ce qui s'est passé il y a 26 ans, c'est du passé. C'est pour ces enfants qu'il faut qu'on soit ensemble maintenant, pour qu'on entre enfin dans cette Union européenne.
Mais ces dernières années, l'image de l'Union européenne s'est considérablement dégradée dans les Balkans occidentaux. La Macédoine du Nord a notamment vu sa candidature bloquée par plusieurs vétos, des refus qui ont suscité incompréhension et une forte déception. La politologue bosnienne Ivana Maric.
La situation est vraiment différente d'un pays à l'autre. Je peux comprendre qu'en Macédoine du Nord, les gens soient vraiment déçus parce qu'ils ont changé le nom de leur pays et ils n'ont pas obtenu l'ouverture des négociations. Mais ici, en Bosnie-Herzégovine, je ne vois pas pourquoi nous serions déçus. Nos élites n'ont rien fait. En 2019, l'Union européenne nous a posé 14 conditions et nous n'en avons rempli aucune. Donc nous devrions plutôt être mécontents de nos politiciens. La première réforme que demande l'Union européenne, c'est celle de l'état de droit. Et nos politiques n'aiment pas ça. Car avec le renforcement de l'état de droit, ils seront les premiers à aller en prison.
Depuis la fin de la guerre en 1995, les discours nationalistes des dirigeants politiques continuent d'alimenter les divisions entre Bosniaques, Serbes et Croates. Une rhétorique haineuse qui déstabilise un état déjà fragile et qui permet surtout à la classe politique de garder la main sur les richesses du pays. La Bosnie-Herzégovine est l'un des pays les plus corrompus et inégalitaires d'Europe.
Le problème, c'est que les diplomates de l'Union européenne s'attendaient à ce que nos politiciens évoluent. Quand en discutant avec eux, ils se sentent gênés, sont obligés de changer. Mais ils n'ont rien fait et ne changeront pas, parce que ce ne sont pas des politiciens, ce sont des criminels. Donc l'Union européenne doit soutenir notre système judiciaire, les commissions électorales et les politiciens qui veulent vraiment le changement. Ils n'ont pas besoin de discuter avec des décideurs politiques qui ont montré qu'ils ne voulaient rien de bon pour ce pays et ses citoyens.
Face à la lenteur et au blocage des négociations avec l'UE, les forces vives du pays ont décidé de ne pas attendre et d'aller vers cette Europe qui ne vient pas à eux. À 21 ans, Adnan prépare déjà son départ du pays.
Moi, pour tout vous dire, j'ai ma copine qui est en Autriche, donc je compte aller la rejoindre. Ici, la situation est trop mauvaise pour que je reste et ça ne fait qu'empirer.
On estime que 50 000 Bosniens ont déjà émigré vers l'Allemagne ces dernières années. Pour Adnan, c'est un pari économique, mais c'est aussi un choix de société.
Par exemple, en ce qui concerne l'éducation ou le respect des droits humains fondamentaux, là-bas, il y a des lois qui protègent vraiment les citoyens. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut, comme c'est le cas ici. Les gens partent aussi pour les emplois et les salaires. Ici, en Bosnie-Herzégovine, les revenus sont vraiment très faibles. Tous les jeunes, s'ils partent à l'étranger, c'est aussi parce qu'ils veulent avoir des perspectives. Ils voient qu'à l'étranger, ils peuvent travailler par eux-mêmes et se construire pour une vie normale. C'est tout.
Cette émigration continue aggrave encore un peu plus la crise démographique que connaît le pays depuis la guerre. Alors qu'elle comptait plus de 4 millions d'habitants en 1991, la Bosnie-Herzégovine a aujourd'hui perdu plus de 20% de sa population.
Le scandale diplomatique entre la France et les États-Unis autour des sous-marins du Pacifique aurait pu faire passer cette information au second plan. L'Europe entend bien être présente dans l'Indo-Pacifique, une zone qui concentre 70% du commerce mondial. Elle a dévoilé sa stratégie qui passe aussi par de nombreux contrats de libre-échange à Bruxelles, Pierre Benazé.
Dans la région Indo-Pacifique, les Européens ont déjà signé 4 accords de libre-échange avec la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam et Singapour. Ces accords ont une caractéristique historique très classique, c'est de supprimer les droits de douane, par exemple pour la maroquinerie de luxe française exportée vers le Japon ou le riz vietnamien exporté vers l'Europe. Ces droits sont quelquefois levés au bout de plusieurs années de transition. Mais désormais, les accords dits de seconde génération, comme celui signé avec la Corée du Sud il y a 10 ans, portent en grande partie sur l'harmonisation des règlements. Singapour a par exemple accepté les normes de fabrication européennes pour l'automobile et les médicaments. Il y a aussi la protection des indications d'origine géographique. Le New York MAM vendu en Europe doit être fabriqué au Vietnam. Et de la même façon, la palourde d'eau douce du lac Ogawara ne peut venir que du Japon. Ces accords permettent aussi aux entreprises européennes de soumissionner pour certains marchés publics des pays signataires et inversement aussi. La stratégie indo-pacifique de l'Union européenne est donc très vaste, mais les rouages des négociations commerciales se grippent volontiers. Du fait des questions européennes sur Taïwan, le Tibet, Hong Kong ou les Ouïghours, l'accord sur les investissements avec la Chine est suspendu, alors que c'était une grande ambition européenne. De la même façon, à cause de la crise des sous-marins, les négociations pour l'accord de libre-échange avec l'Australie sont reportées. Elles auraient dû reprendre la semaine prochaine, mais ce sera au plus tôt en novembre. À peine présentée, la stratégie européenne pour l'Indo-Pacifique rencontre déjà les premiers obstacles.
Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombe, luttons pour la paix.
L'Europe et ses 27 États membres comptabilisent 46% de l'aide au développement dans le monde. Au Sénégal, par exemple, la délégation de l'UE a choisi de financer plusieurs associations de jeunes réunies dans le consortium Jeunesse Sénégal. Leur projet donnait des outils pour l'emploi et l'entrepreneuriat à 200 000 jeunes de la banlieue de Dakar. C'est le reportage de notre correspondante Charlotte Hydrak.
Depuis la terrasse du centre Yakar, qui signifie espoir en Wolof, l'océan est tout proche. Nous sommes à Guédiaouaï, en banlieue de Dakar.
On est à 35 minutes de Dakar, sur la côte nord, voilà, dans la banlieue de Guédiaouaï, qui réunit plusieurs quartiers. Donc ça représente une population jeune assez importante.
Anne-Laure Paille est responsable du campus du Centre de Leadership et d'Innovation lancé par le consortium Jeunesse Sénégal. La cible, les jeunes de 16 à 35 ans.
Donc vous voyez, le centre commence à prendre des couleurs. Les couleurs du consortium Jeunesse, jaune, vert et rouge. Voilà, avec des mots forts là sur toute la montée d'escalier. Éduquer, entretenir, éveiller, conseiller. Des mots qu'on a choisis et qui sont pour nous parlants au niveau de la jeunesse et au niveau de notre projet.
un espace médiathèque dédié aussi à l'information et l'orientation, une salle informatique ou encore un studio de production audiovisuelle. À l'extérieur, une scène et un espace restauration. Le lieu, qui devrait être pleinement opérationnel d'ici la fin de l'année, se veut ouvert aux jeunes du quartier. Achille Gilda Servet Simoto Djikoun, 31 ans, volontaire et formateur.
Quand j'ai eu mon bac, je suis parti à l'université. Donc j'ai fait 2 ans là-bas. Bon, je ne savais pas quoi faire en quelque sorte, quoi, parce que j'avais eu des problèmes financiers. Donc avant, quand j'entrais ici, j'étais volontaire. Moi, j'habite ici à Guédiouaï. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont des diplômes, mais qui ne savent pas où s'orienter. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont très tôt abandonné les études. Donc ce centre leur permet de pouvoir saisir une autre opportunité. C'est un centre qui apporte de l'espoir.
Au Sénégal, plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Une jeunesse particulièrement touchée par le chômage. Fatou Bandiour, responsable du projet Jeunesse Espoir.
Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi au Sénégal et notamment dans la banlieue. Et là, c'est les jeunes qui trouvent des solutions pour les jeunes, par les jeunes. Ensuite, dans ce projet-là, on a le jeune qui est placé comme principal moteur de changement pour que lui également, dans sa communauté, crée le changement. Donc, on a des formations techniques, que ce soit en restauration, en couture, en menuiserie, etc. Donc, on l'outille avec des compétences techniques. On l'outille également avec des compétences douces. C'est tout ce qui est parler en public, donc tout ce qui est communication, l'utilisation du numérique également. Donc là, dans le cadre de ce projet-là, on donne accès, on fait travailler et on apprend.
Que les jeunes deviennent des relais, une démarche qui a convaincu la délégation de l'Union européenne à Dakar. Elle s'est engagée à hauteur de 2 millions d'euros sur 3 ans. Sobel Aziz Ngom, directeur exécutif du consortium Jeunesse Sénégal.
Nous nous sommes tournés vers plusieurs partenaires. L'Union européenne a été un partenaire pionnier avec lequel nous avons signé un accord de partenariat politique pour promouvoir en tout cas l'inclusion des jeunes dans les réflexions, dans les stratégies, des projets qui les concernent. Nous considérons aujourd'hui que les partenaires qui sont là pour aider la nation et ses populations doivent être particulièrement à l'écoute de ce qu'elles ont à proposer pour leur propre devenir. Et donc nous avons eu des interlocuteurs ouverts à discuter avec nous, à entendre nos propositions. Donc ils nous ont donné un mandat de confiance parce qu'effectivement, c'est peut-être la première fois qu'une association de jeunes locales lève plus de 2 millions d'euros pour faire une activité. Nous en sommes conscients, mais nous sommes également conscients de nos intelligences et de nos capacités à pouvoir réaliser des choses qui sont productives, qui sont adaptées à notre environnement et qui répondent aux besoins de nos jeunes.
Sobel Aziz Ngom participe au sommet de Montpellier ce vendredi. Il y a eu certaines fissures dans l'alliance entre l'Afrique et la France, dit-il. Il ne s'agit ni de dénoncer ni de revendiquer, selon lui, mais je cite, d'éviter la méprise pour éviter le mépris.
Et les jeunes seront nombreux vendredi au sommet Afrique-France qui se tient à Montpellier, un sommet sans chef d'État africain qui laisse la place à 3000 acteurs de la société civile. 4 ans après le discours du président français Emmanuel Macron devant 800 étudiants à Ouagadougou, les jeunes sont sur le devant de la scène. C'est votre chronique d'aujourd'hui. Alice Roujat, bonjour.
Bonjour.
Mais que connaît la jeunesse européenne de l'Afrique ? Pas grand-chose, même si vous vous êtes fait une petite idée lors d'un premier voyage.
Oui, il y a 2 ans, je suis partie voir un ami expatrié en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est étrange, non ? On parle d'expatrié dans un sens et de migrant dans l'autre, preuve que les relations entre la France et le continent sont encore loin d'être égalitaires ou équitables. Donc il y a 2 ans, je débarque à Abidjan et là, c'est la claque. Je vous épargne le carnet de voyage, hein, mais je me rends compte que la présence française, elle est partout. De la monnaie aux infrastructures du port, en passant par les taxis dans lesquels je monte, des vieux tacos des années 80. Au-delà de ça, j'avais aussi été frappée par le bouillonnement de vie dans les rues, l'ampleur de l'économie informelle et puis la place des femmes dans tous ces business.
Mais sans la visiter, l'Afrique, Alice, est-ce qu'on peut la découvrir grâce aux médias.
Ben, pas vraiment, en fait. C'est quand même toujours pas mal de clichés, on en parle quand il y a des crises. Exception faite peut-être à RFI qui consacre des émissions à la vie quotidienne, l'entrepreneuriat ou les différentes cultures. On remarque quand même que les différents sommets Union Européenne-Afrique et Afrique-France ont fait couler de l'encre. Normal, il serait temps de s'intéresser aux jeunesses africaines, parce que selon les projections, en 2050, la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans. Ça en fait hein, des jeunes de demain, des jeunes actifs de demain, donc il faudra radicalement changer les modèles de développement pour permettre à ces populations en grande demande d'avoir un avenir meilleur. Ah oui, et puis bien sûr, il y a quand même des papiers culture, notamment sur les jeunes rappeurs issus des diasporas africaines.
Mais justement, vous allez nous parler des diasporas africaines en Europe.
Oui, bien sûr, les communautés africaines sont très présentes sur le continent, mais on ne les retrouve pas partout. Près de 90% des afrodescendants vivent dans 12 des 27 pays de l'Union, avec en tête évidemment les anciennes nations colonisatrices. C'est compliqué de trouver des chiffres parce que plusieurs pays, y compris la France, interdisent les statistiques ethniques, mais on estime qu'1 à 2% de la population européenne est issue des diasporas africaines. Ça montré à 8% de la population française. Ils sont nombreux donc, mais force est de constater qu'ils sont très peu représentés et c'est criant sur le plan politique. À chaque fois qu'une personne issue des diasporas se présente à un poste de représentant, on en entend sacrément parler, preuve d'un fait encore rarissime. Récemment en Italie, les projets se sont tournés sur Ahmed Abdoulaye, un immigré somalien naturalisé il y a 7 ans, qui s'est présenté pour les élections au conseil municipal de Turin.
Et puis il y a une autre façon de se familiariser avec l'Afrique et c'est peut-être au travers de la vie étudiante.
Tout à fait. 43% des étudiants étrangers en France sont d'origine africaine. Ça représentait près de 43 000 étudiants en 2015. Mais leur mobilité a été assez compliquée par l'augmentation des frais de scolarité ces dernières années. Des étudiants européens en Afrique, par contre, c'est moins évident. Mais depuis l'ouverture du programme Erasmus+, en 2015, leur nombre a été multiplié par 12. Passant de 46 en 2015 à 594 en 2020. Le but du programme, c'est évidemment d'intensifier ces échanges, aussi bien dans un sens que dans l'autre, ce qui contribuerait vraiment à élargir le panel des jeunes expatriés en Afrique, qui ne peuvent pas seulement être des militaires engagés sur le terrain, des volontaires qui font de l'humanitaire ou des entrepreneurs.
Merci beaucoup, Alice Rouja, à la semaine prochaine. Et on vote cette fin de semaine en République tchèque, quitte ou double pour l'actuel Premier ministre, le milliardaire Andrej Babiš. Il est entré en politique il y a une dizaine d'années, mais son image est aujourd'hui entachée par un nouveau scandale. Les Pandora Papers dévoilent tout un système de montage financier très opaque pour acheter des propriétés de luxe dans le sud de la France. À Prague, Alexis Rosenzweig.
Une quinzaine de millions d'euros, c'est la somme qu'Andrej Babiš aurait versée pour l'achat de propriétés sur la Côte d'Azur en 2009, quand il n'était pas encore en politique, mais déjà l'une des plus grandes fortunes tchèques. Une somme versée pas directement, mais par l'intermédiaire de sociétés offshore, selon les informations révélées dans les Pandora Papers. 15 millions d'euros pour un homme dont le patrimoine est estimé à 3 milliards et qui traîne déjà plusieurs casseroles, dont une affaire de fraude aux fonds européens, toujours en attente de procès. Les révélations Pandora Papers tombent très mal pour le chef du gouvernement tchèque en fin de campagne électorale, mais son électorat a toujours semblé s'accommoder de son passé controversé, de ses liens avec la police communiste, à ses conflits d'intérêts pointés du doigt par la Commission européenne, car il est toujours le bénéficiaire du conglomérat qu'il a fondé et placé dans des fonds fiduciaires. Au sein du groupe parlementaire européen des libéraux de Renew, dont fait partie le mouvement ANO du Premier ministre tchèque, les partenaires étrangers ont de plus en plus de mal à cacher leur embarras. Andrej Babiš, qui s'est récemment affiché aux côtés de son ami Viktor Orban, joue gros dans ce scrutin. Il a dit qu'il se retirerait de la politique si le résultat ne lui permettait pas de se maintenir au pouvoir. Mais pour le milliardaire de 67 ans, fondateur d'un empire industriel et médiatique, la suite dans la vie civile pourrait d'abord se dérouler dans les tribunaux. Même le fils d'Andrej Babiš a menacé de porter plainte contre lui pour une ténébreuse affaire dans laquelle il l'accuse de l'avoir fait kidnapper et emmener jusqu'en Crimée pour l'empêcher de témoigner.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Groslot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et abonnez-vous à notre podcast sur les plateformes d'écoute. À demain.